RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
On a la troisième heure des GG maintenant. La première et la deuxième heure, elles sont d'ores et déjà disponibles en podcast. Et en podcast, vous allez retrouver notamment les extraits du spectacle de Zora Bitant. Zora qui nous parle de son spectacle qui arrive. Je vous laisse découvrir ça parce que dedans, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose d'important qui se passe dans la vie de Zora. Mais voilà, c'est dans les podcasts et puis on mettra en ligne les vidéos sur les réseaux sociaux. Je vous laisse découvrir ça. Zora Bitant est avec nous, tout comme Didier Giraud et Joël Dagosséry.
Alain, permets-moi de rectifier, ma langue a fourché tout à l'heure. Je parlais du nombre de votants pour Bali Bagayoko à Saint-Denis. J'avais dit 3500, c'est 13500. Voilà, 13500, c'est une abstention quand même de 57%, une participation de 42%. Voilà.
Dans la troisième heure et dernière heure des GG, puisque tu évoquais la politique, on va se demander si la multiplication des petites candidatures, ça sert à quelque chose. Par exemple, Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, qui vient de se déclarer prêt pour 2027. Jérôme Guedj, qu'on a reçu ici. Benjamin Lucas pour la gauche. Clémentine Autain. David Lisnard. C'est pas leur faire injure, simplement poser la question. Elles alimentent le débat politique, mais à quoi ça sert?
Donc, on va voir ça se fera pas.
En plus, il faudra les 500 signes.
Bah oui, effectivement, c'est ça le truc.
Mais voilà, vous venez en discuter avec nous au 32-16 dans 20-25 minutes. En attendant, on va regarder la perspective de la Coupe du Monde et ces municipalités qui commencent à s'inquiéter, qui craignent des débordements et qui utilisent l'arme fatale dans ces cas-là. C'est quoi? Le couvre-feu. Ben non. Bon, on prend un exemple concret, le Puy-de-Dôme et Clermont-Ferrand, ville qu'on connaît bien, on y est allé faire des émissions avec les Grandes Gueules, on était il y a encore deux ans, on était place de Jaude. Là, il y a eu des incidents à Clermont-Ferrand,
Des émeutes. Le soir du titre du PSG, c'était des émeutes.
Ces derniers temps.
Pas les bons termes.
Du coup, la préfète du Puy-de-Dôme et le maire ont décidé de prendre ce qu'on appelle un dispositif de sécurité.
Oui, un couvre-feu pour les moins de 16 ans. Alors, est-ce que c'est pas un aveu d'échec? Parce que les soirs de match de foot, ça devrait être des soirées festives, familiales, où les jeunes et les moins jeunes se retrouvent. Là, visiblement, comme on n'arrive pas à endiguer la violence de certains, on interdit pour tout le monde. Moi, les punitions collectives, ça m'a toujours surpris. Je trouve ça pas très pédagogique. D'ailleurs, c'est interdit officiellement, les punitions collectives.
Ben non,
on punit ceux qui commettent des fautes, mais on punit pas tout le monde.
Oui, mais comme on
le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est bon. Ben finalement, on n'arrive pas à trier les voyous des gentils. Ben on va pénaliser tout le monde. Et c'est dommage parce que ce soir-là, les soirs de l'équipe de France, en plus c'est l'été qui arrive. Je vous rappelle que la Coupe du Monde qui démarre jeudi va jusqu'à mi-juillet. Il y a beaucoup de monde qui vont être en vacances, etc. Ben c'est dommage de priver ces gens-là de faire la fête.
Fallait pas.
Bah non, mais je suis pas d'accord avec toi, Olivier. Bah ouais. Ça s'appelle un couvre-feu, mais c'est pas Pinochet, hein. C'est pour les moins de 16 ans non accompagnés.
C'est très liberticide, oui.
Non mais attends, un couvre-feu pour les moins de 16 ans non accompagnés, tu peux pas dire c'est pour tout le monde, quoi. Enfin, moi je suis pas d'accord avec toi.
Pour tous les moins de 16 ans, oui.
Non accompagnés.
Très bien, mais
pour les moins de 16 ans non accompagnés, c'est pas un couvre-feu pour tout le monde.
Pardon, à 15 ans, un soir de match. En vacances, si et tu peux pas aller dehors. Excuse-moi, j'ai eu 15 ans. Mais en fait, c'est marrant parce que dans ce pays de vieux, on a oublié qu'on a eu 15 ans et qu'on a été jeune.
Non, c'est 15 toi. Ans, pour toi, tu dans quel
à 15
pays,
ans, tu sortais
pas. Tu traînais
pas.
Dans les rues à 15 ans.
À 15 ans, s'il y avait eu un match de foot, oui, j'aurais été voir chez un copain, etc.
Je traînais pas dans les rues à 15 ans.
Mais toi, tu traînais dans les champs, pas dans les rues.
Mais même pas. Mais j'aurais habité en ville, c'est pareil. Mes parents, ils m'auraient pas laissé traîner dans les rues à 15 ans.
Les copains,
les enfants, ils ont pas traîné dans les rues à 15 ans.
Voilà.
là.
Bah non.
Mais...
On a retrouvé une ex, là, justement, qui se met à 15 ans.
Quand tu vois, t'as un problème avec la zoophilie, toi.
T'as un problème, toi, avec la zoophilie.
Quand tu traînais avec elle.
Non, mais Alain, dis-nous, confesse-nous, Alain. T'as un problème avec ça, toi. C'est un vieux fantasme chez toi, la zoophilie.
Il adore la campagne, en fait. Il habite en ville et il adore la campagne. C'est un vieux fantasme.
Il y a 18 ans que je suis arrivé ici, c'est la première question qu'il m'a posée, quoi.
T'aimes les vaches.
Si, c'est vrai que les paysans.
Il y a eu des cas.
Bon, allez, on dérape là.
Non, mais c'est bon.
Bon, alors.
15 ans.
Moi, je crois qu'un gamin qui a 15 ans.
Moi, dans le sud, à 15 ans, excuse-moi, j'étais dehors.
Merci.
Je joue au foot avec les copains jusqu'à 22h. Les parents savent où on était.
Ben, là, on est après 23h.
Mais alors,
c'est un match de fou. La préfète.
Mais peut-être que c'était 14, le vrai
par
truc.
Par incompétence, voilà. Incapable d'arrêter ceux qui cassent, emmerde tout le monde. Mais c'est comme le confinement. On était incapable de protéger les personnes fragiles. On a emmerdé tous nos enfants. Elle est confinée pendant 2 mois. Et après, on s'étonne. Ah, ben, je comprends pas. Ils ont raté leur année. Il y a la santé mentale, etc.
C'est à cause des gens comme Olivier que le pays, il est mou.
Non.
C'est pour ça.
Non, mais moi, je parle de Pinochet. Hein,
Mais déjà, les punitions collectives existent dans le foot, particulièrement. Je veux dire, quand les supporters font n'importe quoi, on punit le club.
Eh ben, je suis contre.
D'accord, donc c'est pas nouveau.
Moi, je suis pour
qu'on va faire comme si c'était juste,
quoi, juste ça.
Deuxièmement, moins de 16 ans, moi je trouve qu'elle est gentille. Moi j'aurais mis moins de 18, déjà de 1. Je serais allé jusqu'à moins de 18.
Mais alors, va vivre en Russie,
oui,
va vivre en Chine,
oui,
va vivre dans les pays, là tu serais heureuse.
Non, parce que je suis désolée, moi j'ai pas l'impression que je suis en échec quand ma fille, je lui dis « attention, il faut pas faire ça ». Et que finalement, elle le fait une fois, deux fois, et que je lui dis, ça c'est terminé, ça s'arrête là maintenant, tu sors pas. Pour moi, je me considère pas être un parent en échec. Je considère qu'elle a désobéi, que j'ai mis une règle, elle a désobéi, et qu'elle mérite une sanction. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, et ben là, sanction. Fallait pas tout casser. Ouais. Sanction. C'est tout. Et l'État doit se comporter comme ça. Il faut arrêter de permettre aux gens de continuer à se balader à 15 ans, alors qu'on vient de brûler la ville. Bon, non,
c'est
terminé.
Ouais, mais c'est pas. Tous les jeunes de 15 ans, mais c'est marrant.
Mais non.
Désolé, mais. Moi, j'étais dans Paris.
Jusqu'à ce que les gens comprennent.
Qui manifestaient leur joie,
je suis d'accord,
les emmerder, et puis il y a des petits connards,
mais
il fallait arrêter, foutre au trou.
Mais voilà, jusqu'à ce que les gens comprennent, jusqu'à ce que les gens comprennent que ça va plus se passer comme
c'est ça. L'autorité.
Désolé.
Ça, c'est pas l'autorité, c'est l'autoritarisme. C'est pas
Mais regarde,
Joël, si on va au bout du raisonnement, tu punis l'ensemble des jeunes de 16 ans parce qu'il y a une minorité qui fout le bordel.
Après 20 d'accord. Ils viendront avec des mecs de 19 ans.
Non, mais c'est pas ça.
Et
c'est
puis
que.
Ils pèteront tout.
Ça veut dire que tu renvoies la responsabilité à des innocents, c'est-à-dire des gosses qui n'ont rien fait, tu leur renvoies la responsabilité du bordel que mettent d'autres. Et tu dis, jusqu'à ce que ça aille mieux, on n'autorise plus. Mais en fait, quelle action peut mener un gosse de 16 ans qui va s'amuser? Il est pour rien,
c'est
lui.
C'est pas eux de faire
les ordres. Zora, on peut le regretter, mais aujourd'hui.
C'est un aveu d'échec. Bah
aujourd'hui, la société
une reprise en main.
Est ainsi faite.
Une reprise en main d'autorité.
On n'est pas foutu de les dissuader de faire ça.
Mais parce qu'on n'est pas
assez fermes. Regarde le résultat. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Regarde le résultat des comparutions immédiates des mecs le lendemain du PSG. Ils ont eu quoi? Ils ont rien eu. Rien.
Et donc, parce qu'on n'est pas capable d'être ferme, les gens sont avec ceux qui commettent, on va punir les autres.
Un exemple concret, il fait 30 degrés, il y a piscine. La piscine est ouverte, tu peux y aller. Il y a 10 cons qui foutent le bordel dans la piscine.
Ouais,
on ferme la piscine. Tes gosses, ils vont à la piscine. Tes enfants vont à la piscine. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mes enfants, ils devaient avoir 13, 14. Ils étaient ados, mais c'est des mômes super. Voilà, aucun problème. Ils reviennent, ils me disent, maman, la piscine, elle est fermée. En fait, parce qu'il y a 10 footeurs de merde. Tu sors les 10 footeurs de merde et tu laisses les autres tranquilles. Et on a puni tout le monde, on a fermé la piscine.
Parce que si on ferme la piscine,
l'exemple, il est caricaturé. On ne ferme pas la piscine pour tous les
mondes.
En l'occurrence, cet exemple-là était caricaturé parce que je trouve que les mômes de plus de 16 ans,
Alain n'est pas d'accord.
Bah non, parce qu'on a eu l'exemple de centres nautiques, oui, et de bases nautiques,
mais oui,
qui ont été complètement fermés,
oui,
à cause
de,
d'une dizaine de personnes.
Mais ça, c'est pas l'exemple de Clermont-Ferrand. Mais l'exemple de Clermont-Ferrand, c'est après 23 heures, moins de 16 ans non accompagnés. C'est pas tout le monde.
Je rappellerai qu'en droit français, on ne peut sanctionner quelqu'un pour une faute qu'il n'a pas commise. Eh bien, quand tu fais un couvre-feu pour tous les mômes, tu sanctionnes des gens qui n'ont pas commis de faute.
Voilà.
Que la préfète se donne les moyens d'être ferme avec ceux qui
Voyez-le comme une sorte de moratoire. C'est-à-dire que pendant un moment.
Oui,
pendant un moment, on bloque les choses pour calmer les choses. Ensuite, à côté, bien sûr, il faut revoir les peines. Les peines qui sont appliquées, je veux dire, c'est pas juste bloqué, il faut revoir l'entièreté de système autoritaire, si je peux dire ça comme ça. En France, tu bloques les peines et c'est jusqu'à 23h. Ah, donc après 23h, si t'es dehors,
Joël, t'es une libérale.
Justement,
la maire de Clermont, elle vient d'arriver derrière 50 ans de gauche laxiste. Aujourd'hui, Clermont, c'est une ville qui rebeuille de pugs à chiens.
Qui quoi? Qui rebeuille?
Qui regorge de pugs à chiens où le trafic de drogue est exponentiel, comme dans toutes les capitales régionales. Aujourd'hui, elle prend cet arrêté pour dire stop.
Parce qu'elle est dépassée.
Stop maintenant, parce qu'elle n'a pas les moyens de faire autrement.
Moi, je trouve, toi, Joël, qui est libéral, c'est une notion de la responsabilité individuelle.
Exactement.
Chacun est responsable de ses actes.
Oui, mais
là, la préfète, elle dit finalement, je m'en sors pas, j'arrive pas à attraper ceux qui foutent le bordel, si on doit parler comme ça. Et donc, j'interdis à tout le monde. C'est comme la piscine qu'on ferme à tous les gamins.
Oui, mais la responsabilité de l'État, pas que individuel. Et l'État, aujourd'hui.
On peut vivre confiné, comme ça, effectivement, il n'y aura plus jamais de problème.
Moi, j'adorerais, t'es dans un avion, t'as deux mecs qui picolent, ils foutent le bordel, on dit, bon, on décolle pas. Descendez tous.
On sort les types.
On est d'accord.
Tu sors les types, ou si ça se passe,
c'est déjà arrivé.
Il y a pas très longtemps, le pilote a fait atterrir l'avion.
Voilà.
Et il a débarqué. Il est le seul maître à bord. Le maire, il est le seul maître à bord de sa commune. Et il dit, voilà,
Pas d'accord avec vous.
Alors, on a Sébastien qui veut réagir. Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes entrepreneur du côté de la Seine-et-Marne. Qu'est-ce que vous en dites alors, Sébastien ?
Et moi, vous me faites rire, Joël, mais certains sur le plateau qui dénonçaient même les violences des gamins et le fait qu'il y ait des gamins dans la rue au lendemain de la victoire du PSG. À un moment donné, quand on est parent, on est responsable de ses enfants. Si tu es d'accord pour que ton enfant il sorte dans la rue, eh bien, tu l'accompagnes. Et à la limite, tu prends même ses copains. Comme ça, ça permet à ce que ses copains puissent sortir. Et ça remplit le texte qui dit mineur de moins de 16 ans non accompagné, c'est-à-dire que tu as un adulte qui va les accompagner. Ça te permet d'avoir un responsable, parce que si l'effet de groupe des gamins fait que les gamins vont faire des conneries, eh bien tu es responsable de ton enfant. Moi, je trouve irresponsable aujourd'hui, dans la situation actuelle du pays, c'est-à-dire que quand on entend tout ce qu'on entend sur l'insécurité, tant que ce soit sur des jeunes de cité, que ce soit sur des pédocriminels, que ce soit sur des mecs qui vont piquer avec des aiguilles dans les mouvements de foule, que ce soit sur tout ça, je trouve irresponsable de la part d'un parent, garçon ou fille, quel que soit le sexe de l'enfant, de dire « je laisse mon enfant de moins de 16 ans sortir dans la rue, faire la fête parce qu'il y a un match de football, parce qu'il y a quelconque événement. »
Donc on laisse la rue, on laisse la rue aux délinquants alors. Donc et chacun reste calfeutré chez soi.
On laisse la rue aux délinquants.
C'est la démagogie ce que tu fais.
Mais non. En fait, ça aboutit à on reste calfeutré chez soi.
Sébastien.
Non, on accompagne les gamins.
On est responsable de nos enfants. C'est-à-dire que quand tu fais des enfants, c'est pas allez, j'ai la paix, vas-y, moi je bois l'apéro avec mes potes et toi tu vas boire l'apéro avec tes potes, tu vas faire le con avec tes potes. Non, quand on a des enfants, c'est aussi un moment de partager un moment.
Oui, mais on s'en occupe. Oui, mais moi je suis pas pour une société où les enfants ne sortent plus de chez eux parce que on a tellement peur de tout. Moi pardon, je suis d'une génération, à 15 ans, on était dehors, on jouait tout le temps dehors. Nos parents nous disaient allez, va jouer dehors, là tu fatigues. On partait jouer, il n'y avait pas de portable, et on partait toute la journée. Et je pense que la santé mentale des enfants irait mieux s'ils passaient moins de temps sur leurs écrans, enfermés dans leur chambre, avec des parents qui ont peur de tout. Moi, je pense que ça serait bien, justement, que l'extérieur.
Sébastien,
il reste devant ses écrans.
Si ton gosse de 13 ou 14 ans, il veut aller fêter la victoire de l'équipe de France, tu vas avec lui. C'est quand même pas ce que tu nous décris, quoi.
Ouais, avec un faux.
Mais Sébastien, regardez jusqu'où va la préfète. Elle dit les écrans de télévision devront être à l'intérieur des bars et pas sur les terrasses pour éviter les trottoirs, pour éviter les attroupements sur
C'est libertin.
Ce qui était plutôt sympa, c'était ça aussi. Ça, vous aviez. En plus, là, au mois de juin, vous aviez les écrans à l'intérieur.
C'est la défaite souvent, de ce pays. Pardon.
Je sais pas si vous voyez, ils mettaient sur des pieds des écrans géants et puis c'était plutôt sympa.
Mais ça faisait du chiffre.
Ça faisait du chiffre pour le restaurateur.
On va arriver dans un monde où on pourra plus faire la fête parce qu'on est incapable de la réguler.
D'ailleurs, on y arrive. On ne peut plus la faire. Parce que, excuse-moi, j'ai pas pu laisser ma fille tranquillement. J'étais pas tranquille à ce qu'elle sort. Donc là, tu peux plus la faire. Moi, je veux qu'on reprenne ça en main pendant un certain temps, que les gens comprennent comment ça doit se passer normalement et que tout le monde sorte.
Deuxième chose,
question que je me pose. Le 23h, là, il est calqué sur les horaires.
Parce qu'il y a des matchs à 21h ou 21h30.
Oui, il y en a même. Il y en a même des fois un peu plus tard. Donc j'espère que c'est pas 23h comme ça en l'air.
Tu commences à te dire que la préfète, elle est peut-être un peu bête et méchante dans ses décisions.
Non, je n'ai pas dit ça. Mais je ne sais pas si elle a bien pris en compte la réalité.
Le match, il a commencé à
21h10.
Il a commencé à 21h10. Là-dessus, pour la Coupe du Monde, tu vas rajouter les pauses fraîcheurs.
C'est ça.
Il y a des prolongations.
Plus la mi-temps. Le match termine à 23h10, 15, 20, tu vois.
C'est des décisions administratives bêtes et méchantes. Enfin, Joël, toi, une libérale, c'est la responsabilité individuelle qui
prend. Premier match équipe de
France-Sénégal. Et quand tu as fait des gosses, tu les assumes.
Le jusqu'à ce qu'ils
aient pour les règles, je suis pas une libérale. C'est la fête à la maison, non? Il y a un moment, il faut remettre un cadre.
Bon, ben ça vous fait beaucoup réagir. Et tu vois, le France-Sénégal, le premier match, il est à 21h mardi prochain. Donc avec les pauses fraîcheurs et autres, tu calcules. Oui, ça fera. Tu dépasseras
le problème. C'est pas l'horaire.
Ah bah bon.
C'est des gamins qui traînent sans surveillance. C'est ça le problème.
Oui, enfin.
Ben bah oui, il est là le problème.
Tu mets le match à 3h de l'après-midi, sera moins problématique, effectivement.
Oh,
le
soir, rien. Hein.
Bah, si. Je remercie Sébastien d'avoir été avec nous. Un instant, on aura Agostino qui veut réagir. Il est routier et dit quand même. Enfin, faut arrêter. Tous les jeunes ne sont pas des casseurs.
Exactement.
Voilà, alors
le
merci.
Couvre-feu obligatoire pour les jeunes le soir. Alors c'est Clermont-Ferrand, hein, de 23h à 7h du matin pour les moins de 16 ans qui sont non accompagnés. Hein, sinon, faudrait être avec un adulte. Allez, à tout de suite avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
On a Agostino qui est avec nous. Bonjour Agostino, pour conclure notre discussion là sur les couvre-feux pour éviter les incidents pendant les matchs de Coupe du Monde. Bonjour Agostino, bienvenue.
Qu'est-ce que vous en dites alors? Bon, c'est n'importe quoi. Je veux dire, moi personnellement, j'étais un délinquant toute ma vie. Et franchement, j'ai été 150 fois au tribunal correctionnel. J'étais que 16 fois en prison. J'ai aucun mauvais souvenir de la prison, parce que déjà la prison c'est une colonie de vacances. Enfin bref, ça tout le monde le sait. Et moi, ce qui m'a repenti, c'est Sarkozy. Moi, j'avoue, Sarkozy a dit peine maximum pour les récidivistes. Et ben moi, franchement, ça m'a suffi. Je voulais pas aller 7 ans en prison pour vol de gasoil ou vol de métaux. Mmh. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est n'importe quoi. Je veux dire, aujourd'hui, une prison, il faudrait qu'elle soit lucrative pour pouvoir investir. Et pour être lucratif, il faudrait faire un mur tout autour de la prison, décharger les camions de poubelles. Les détenus, ils trient les poubelles. Et puis ça s'appelle le recyclage. Enfin, et on pourrait réinvestir. Enfin, vous savez, des fois, il y a des casernes militaires.
Donc, vous dites pas de punition collective pour pendant les matchs. C'est plutôt qu'ensuite, les gamins, ils sachent
Mais aujourd'hui, Agostino, c'est quoi? C'est qu'il faudrait attraper les vrais délinquants et qu'il y ait quelque chose de dissuasif?
Bah bien sûr, il faut.
Bah oui, mais on est en constat d'échec devant ça.
Merci Agostino.
Moi Agostino, je suis d'accord avec vous. Non, sauf que la France d'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est pas ça quoi. C'est pas ça. Les mecs qui ont pété les boutiques après le titre du PSG, ils ont eu un rappel à la loi ou du sursis.
Zéro. Bah voilà. On est bien d'accord.
Et aujourd'hui, Agostino,
la rédemption par le travail, je suis un grand défenseur.
Et Agostino, aujourd'hui,
Sarkozy, je suis devenu un homme normal. Je suis devenu.
L'étranger des affaires.
Mes enfants, ils ont eu une éducation normale. Grâce à Sarkozy, j'aimerais un jour le remercier parce que grâce à lui, ben oui, il a trouvé les mots. Et pourtant, j'étais un délinquant notoire. Hein, j'étais pas le pire, mais j'étais un délinquant notoire. Et franchement, grâce à lui, voilà.
Qu'est-ce qui vous a fait changer?
Comment?
Qu'est-ce qui vous a fait
la peur de la récidive?
Je vous dis, c'est Sarkozy, il a dit. Un jour, j'étais voir mon cousin, et il était pas là, sa femme a dit, il est parti en prison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé 4 CD à Leclerc, Et ben elle a pris 4 ans ferme. Ça c'était dans les débuts de Sarkozy.
Putain.
Et ben, moi, ça m'a suffi. Moi,
j'ai, pardon. Bah oui. 4 CD, 4 ans ferme. Les temps ont changé.
Ah oui, mais il y avait tout ce qu'il y avait avant.
Il y avait tout ce qu'il y avait avant. À Leclerc.
Ça, mais il avait des antécédents.
Oui, il avait des antécédents.
Ouais, mais, c'est ça.
Mais qu'est-ce qu'il y avait comme antécédent? Il y avait quoi comme antécédent?
Comme moi, bah, il était à peu près comme moi. Mais voilà, il a pris 4 ans ferme. Et ben ça, moi, ça m'a donné un coup d'électricité. J'ai arrêté de voler. Et puis je suis devenu un mec normal, quoi. Mes enfants, du coup, ils ont pas le même parcours que moi. J'en suis fier. Et voilà, donc en fait c'est ça, c'est et déjà la prison, je veux dire franchement, Moretti, qu'est-ce qu'il a fait à part lécher le cul des détenus, il a mis des frigos, il a mis des gazinières, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Personne n'a peur de la prison aujourd'hui. Darmanin, oui, je pense que Darmanin il est motivé. Il faudrait juste les.
Alors ça.
C'est-à-dire qu'il faudrait que Darmanin écoute un peu des repentis comme moi, parce que des repentis comme moi, il doit en avoir plein.
Donc moi, vous voulez de la fermeté.
Il a réussi à me repentir, il a dû en repentir plus d'un. Et voilà, ça c'est des bons exemples.
Comme quoi les gens aiment la fermeté.
Non, mais ce qui est intéressant, ce que dit Agostino, c'est aussi pendant ces 10 années de Macron, il y a eu aussi des messages contradictoires envoyés. C'est-à-dire qu'on est passé de Éric Dupond-Moretti, Nicole Belloubet, qui représentait, on va dire, des
la gauche,
un peu mou du genou, à Darmanin. À l'intérieur, c'est pareil. On est passé à l'Éducation nationale. On est passé d'un Blanquer qui incarne plutôt l'autorité. La laïcité, machin,
et à Papendia.
Enfin, voilà. Donc ça a été du va-et-vient permanent. Bah,
merci Agostino d'avoir été avec Tino.
Oui, mais oui.
Ouais, le terme d'Agostino.
Merci. On va parler politique là pendant 10 minutes.
À quoi ça sert? À quoi ça sert? De me garder de ses goûts éphémères.
À quoi ça sert toutes ces candidatures que l'on voit se multiplier là maintenant dans la perspective de l'élection présidentielle? La dernière en date, c'était ce matin, c'est Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, qui a décidé visiblement lui aussi d'y aller en 2027.
Oui, on a du mal d'ailleurs à compter le nombre de candidats déclarés. Je pense qu'il y en a une bonne vingtaine maintenant, sans compter ceux qui y pensent très très fortement et qui se déclareront peut-être après l'été. Karim Bouamrane, on le connaît bien, c'est Master Poulet qui va pas être content parce que c'est l'ennemi de Master Poulet dans sa ville, maire socialiste.
Master
Souvenez-vous, son nom est apparu lorsqu'on cherchait un premier ministre de gauche. Hein.
Oui.
Alors il y avait Lucie Castet et il faisait partie de la liste Karim Bouamrane. À l'époque, on l'avait décrit comme le Obama à la française. il se présente et il a expliqué chez nos confrères. Il nous a expliqué chez nos confrères d'Inter qu'il ne voulait pas du duel attendu du second tour entre Mélenchon et Bardella. C'est pour ça qu'il se présentait. On voit bien quand même que la gauche non mélenchoniste est en plein désarroi parce qu'il y a quasiment chaque semaine un candidat qui se déclare. Donc on a eu Clémentine Autain, Jérôme Guedj, Benjamin Lucas, Karim Bouamrane, François Ruffin, etc. À droite, il y a aussi des candidatures comme celle de David Lisnard. Alors, il a quitté les Républicains parce que son parti a choisi Bruno Retailleau. Il était pas content, il a quitté les Républicains, mais on se demande effectivement à quoi servent toutes ces candidatures.
Ah bah c'est bon. Bah
moi, je crois que l'armée des Playmobil, là, qui veulent absolument pas que ça soit un duel Bardella-Mélenchon au deuxième tour, ils sont en train de faire tout pour que ça soit un duel Bardella-Mélenchon au deuxième tour. Parce que, alors, toutes ces petites candidatures-là, alors. À leur niveau, elles sont pas petites, mais vu à l'échelle d'un deuxième tour, c'est des petites candidatures qui, à mon avis, n'auront pas les 500 signatures. Rappelons que pour avoir les 500 signatures qui sont maintenant publiques,
ouais.
Alors qu'avant, elles étaient de façon anonyme.
Il faut que ça vienne de 30 départements.
Il faut que ça vienne de 30 départements différents, dans des institutions différentes. Je pense que le premier filtre, il est là. Et qu'il y a plein de gens qui disent vouloir y aller pour exister médiatiquement. Je rappellerai quand même aux politiques que exister médiatiquement, ça résout pas les problèmes de leurs concitoyens, quoi.
Zora.
Ah bah moi je vais faire une annonce. Bah moi aussi, je suis candidate à la présidentielle. Il me faut 500 signatures et 12 millions d'euros. Donc je lance un appel. Il n'y a pas de raison. Je suis pas une femme de clan, ni de chapelle, je suis pas d'écurie, je suis une fille du peuple.
T'as un passé de gauche qui est quand même un peu agaçant.
Ah oui,
quand
mais
même, hein.
Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, si vous nous écoutez, vous pouvez commencer à aller chercher mes signatures. Non, mais ils arriveront jamais au bout. ils arriveront jamais au bout.
500 signatures dans 30 départements différents.
Est-ce que ça alimente le débat? Est-ce que ça aide le débat politique? Parce que c'est ça aussi, si tu veux, en attendant d'avoir les 500 signatures, c'est-à-dire janvier prochain, ils vont exister cet été à la rentrée.
Pour l'instant, la préoccupation,
dans le débat d'idées.
La préoccupation des uns et des autres qui se déclarent candidats, à part peut-être David Lisnard, qui a quand même un peu plus de route depuis un petit moment, qui a fait quelques ouvrages, qui a pas mal...
président de l'Association des maires de France.
Voilà. Les autres, je veux exister dans le débat public. OK. Admettons. C'est de bonne guerre. Hein, ils veulent...
Ah, je pense que lui, il peut les avoir, les 500 signatures.
Mais ça n'apporte rien.
C'est pas des égotripes.
Non, mais complètement. Mais de toute façon, cet univers est rempli d'égo. Ouais. Il est rempli d'égo. C'est-à-dire que c'est que ça.
C'est aussi... Ça montre aussi que c'est la fin des partis.
Par contre, moi, j'ai une hypothèse. C'est que ce qui serait intéressant, c'est que si... d'ici le mois de janvier, parce qu'on n'y est pas encore, là, tout le monde s'amuse à déclarer sa candidature. Au mois de janvier, si vraiment la gauche arrive à faire émerger un ou deux candidats sérieux et crédibles, je pense que ça peut poser un petit problème à Mélenchon. D'ailleurs, il y a Pigasse qui arrête pas d'en parler, qui est en embuscade. Je doute que Pigasse
fasse une alliance.
Pigasse, je doute qu'il fasse une alliance avec Mélenchon. J'y crois pas trop. Mais on n'y est pas encore. Là, pour l'instant, c'est la cour de récréation.
Joël.
Voilà.
Ça sert à quoi tous ces candidats ?
Moi, là, je redeviens libérale. Et je trouve que chacun a la liberté de se présenter. Et je ne comprends pas les gens qui découragent les uns et les autres de se présenter parce que leur candidature serait inutile.
Bah, c'est le réel. C'est les 500 signatures.
TikTok, c'est tout.
Non, mais il y a des filtres qui sont républicains, tels que les 500 signatures, tels que ensuite. Je ne sais pas.
C'est un portable qui vit, mais je cherchais où il était. Bon, vas-y, Joël.
Donc, tel que les 500 signatures, puis tel que les votes. Et je crois que ces filtres républicains doivent s'exercer. Il n'y a pas à censurer les gens dans leur envie de se présenter. Ensuite, sur l'alimentation du débat, je dirais oui. C'est censé pouvoir alimenter le débat, c'est censé pouvoir le nourrir, infuser de nouvelles idées, s'il y avait un programme derrière les candidatures. David Lisnard, il a un programme derrière sa candidature. Les autres, je ne connais pas leur programme derrière leur candidature. Ils se présentent. Leur programme, c'est être anti-Mélenchon. C'est pas un programme. Mélenchon, il a un programme. Ça bosse. Tu vois ce que je veux dire? On peut être contre lui. Ça a bossé. Il a un programme. Ton programme, ça peut pas être juste être anti-Mélenchon. Et je sais que mon maire de Saint-Croix, que j'apprécie beaucoup.
C'est une candidature pour
Néanmoins, moi aussi. je pense que, je crois qu'il a aussi mal digéré, l'élection de Bali Bagayoko à la
Saint-Denis. Voilà. Les projecteurs ont
tourné
un peu ailleurs.
Et donc, effectivement, il a envie de faire perdre cette gauche-là, ce que je comprends.
Oui, mais Joël.
Mais c'est pas un programme,
oui,
ça.
Mais Joël, même donc, si t'as un programme, pardon. Mais,
oui.
Mais on voit bien qu'on a changé d'époque. Avant, il y avait des partis politiques et les candidats étaient issus des partis.
Le débat était interdit.
Voilà, ils se départageaient, machin. Bon, maintenant, les partis, on s'en fout. D'ailleurs, quand le parti choisit un candidat, on s'en fout aussi.
Aussi.
On quitte le parti et on crée son parti. Donc, plus personne respecte rien.
On reste dans le parti et on dit qu'on n'est pas d'accord.
Hein. Ou alors, donc plus personne respecte les règles. C'est chacun pour sa gueule. C'est vraiment la société Instagram. C'est le. Voilà.
On l'air du buzz.
On se
trouve très
beau.
Pas d'accord avec ça.
On est formidable. On ne représente rien.
Non.
D'ailleurs, ces candidatures n'aboutiront pas. On le sait déjà que toutes ces candidatures n'aboutiront pas.
C'est au président de parti d'être des vrais présidents. Mais non,
on a Mathieu qui veut réagir.
Fort. C'est un chef.
C'est chacun pour sa gueule.
Rotaillot. C'est pas un chef non plus.
Mathieu, bonjour.
Désolé, quand on avait des vrais chefs à la tête des partis, il n'y avait pas ce problème-là.
Alors, Mathieu est électeur de droite. Il est du côté de la Marne. Qu'est-ce que vous en dites de ces multiplications de candidatures, Mathieu, alors?
Écoutez, il y a un risque, c'est sûr, pour un deuxième tour. Moi, en tant que candidat de droite, je me dis de sympathisant de droite, je me dis qu'il y a un risque. Mais à la fois, on voit que ça fait trois élections où on vote par dépit. On a besoin de régénérer la politique, on a besoin d'avoir des visions, on a besoin d'avoir des thématiques. Vous parliez de Lisnard tout à l'heure. Aujourd'hui, Lisnard, il est hyper intéressant. Il arrive avec un son de cloche différent, libéral, avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous en parliez tout à l'heure par rapport à la justice. On a enfin quelqu'un qui tient un discours qui dit « il faut que l'État se contente des fonctions régaliennes, la sécurité, la justice, l'éducation, la santé, point barre. » On voit que l'État, aujourd'hui, part dans tous les sens, elle veut tout gérer, et finalement, à la fin, ne gère plus rien. Aujourd'hui, Lisnard, à droite, il porte un discours qui est hyper intéressant et qui va permettre d'ouvrir le débat.
Voilà ce que
ouais, mais Mathieu, moi je vous coupe, mais si la droite était digne de ce nom et que Lisnard était un vrai espoir à droite, eh ben et Retailleau et Wauquiez, ils se mettraient sur leur trait, ils diraient c'est lui notre candidat et on le soutient plutôt que de travailler à leur propre petite personne, quoi. Hein. C'est ça la différence, quoi. Encore, aujourd'hui, on attend de savoir ce que va faire Xavier Bertrand. Wauquiez, il soutient Retailleau du bout des dents quand il est complètement obligé. En gros, on sait qu'il ne le soutient pas. Enfin, on peut reprendre ce qui s'est passé il y a 5 ans aussi. Hein. Ils ont tous savonné la planche du candidat et pareil à gauche. Donc, à un moment donné, ce que vous nous décrivez, Mathieu, ça me va très bien. Mais ils ont qu'à se ranger derrière Lisnard et puis dire c'est lui le meilleur d'entre nous. Et puis on y va, quoi. Hein.
Sauf qu'il y a des ambitions. On comprend tous qu'il y a des ambitions différentes. Il y a des ambitions différentes, c'est certain. Mais il y a aussi des visions de la politique différente. Je pense que quelqu'un comme Retailleau est plus étatiste que quelqu'un comme Lisnard. Il porte quand même des visions différentes. Donc ça va être intéressant qu'il y ait dans les mois qui viennent des débats, des discussions. Il y a eu ce week-end un débat, je crois que c'était dans le Val d'Oise avec Florence Portelli, entre Lisnard
et Edouard Philippe.
C'était hyper intéressant de voir deux hommes d'État, enfin moi j'aime pas du tout Edouard Philippe, mais deux hommes d'État qui avaient des visions différentes et qui sont de la droite aussi. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et moi,
est-ce qu'on a besoin de faire acte de candidature pour faire ces débats-là?
Bah un peu pour prendre la lumière et être dans le buzz médiatique.
Oui, c'est ça. Ça vous permet d'être invité derrière. C'est ça. Mais Mathieu, on va voir justement. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. À bientôt pour de nouvelles discussions, Mathieu. Karim Bouamran, Jérôme Guedj, David Lisnard, Clémentine Autain. Est-ce que vous pensez que ces candidatures sont utiles ou inutiles? Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Vous dites non, pas du tout. 85%. En même temps, 15%, ça te fait passer le premier tour aujourd'hui.
Voilà.
Dans un instant.
Vous partagez entre tous ces candidats.
Voilà.
C'est 15 divisé par 30.
Bon. On était en plein psychodrame. Parce que Anaïs Sinessens, elle était en larmes dans le couloir.
Oui.
Elle présentait sa démission. Elle commençait à s'en prendre physiquement à des techniciens. Donc, on va finir l'émission avec le on s'en fout pas. Elle est restée avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il nous reste 10 minutes à passer ensemble, 10 minutes avec les GG, avec les grandes gueules, avec Joël Dagosséry, Zora Bitton et Didier Giraud. Et exceptionnellement, à cette heure-ci, c'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bon. Ça, c'est pas moi, Didier. Hein.
Moi, j'ai vu
c'est
qui c'était.
C'est pas moi non plus.
Si, c'est toi, je t'ai vu faire Anaïs.
Bonjour Anaïs Sinessens.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Premier réveil dans les locaux de la police judiciaire de Paris pour Patrick Bruel, garde à vue prolongée de 24 heures ce matin pour le chanteur accusé de viol et d'agression sexuelle. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
Joël?
Pas.
À l'issue de sa garde à vue demain, au bout de 48 heures légales d'audition, Patrick Bruel pourrait être déféré devant un juge en vue d'une mise en examen ou alors être relâché sans poursuite. Mais dans le même temps, les GG, on apprenait hier soir que deux nouvelles plaintes pour viol ont été déposées contre l'artiste, selon les informations de Mediapart, alors qu'une comédienne l'accuse également d'une tentative de viol commise en 2000. C'est ce que révèle ça BFM TV ce matin. Joël, pourquoi tu t'en fous pas ?
Bah, il est cuit, hein. Je pense qu'il est cuit. Avec le climat actuel, en plus, avec Darmanin qui est en train de mettre la pression à tous les procureurs, etc. Je pense qu'il est cuit. Après, en même temps, vu le nombre de personnes le nombre de femmes qui portent plainte contre lui, il fallait s'y attendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction. Il y a deux types de réactions. Vous voyez, il y a un conflit des générations. Parce que j'ai écouté la réaction de Brigitte Lahaye. Donc, qui explique qu'on l'a tué médiatiquement, etc., si j'ai bien compris. Et la réaction d'une autre comédienne que j'aimais beaucoup, qui est Annie Dupéret, donc qui nous explique que, vous comprenez, quand on voit toutes ces nanas, ces minettes qui se jetaient sur lui, etc., quand elles veulent quelque chose, ces femmes-là, vous pouvez pas vous empêcher de leur donner. En gros, donc, il pouvait pas s'empêcher de faire ce qu'il a fait compte tenu de toutes les filles qui se jetaient sur lui. Donc, voilà, moi je trouve que ces réactions, elles sont juste un peu dégueulasses. Voilà, après c'est des femmes de leur époque, mais de toute façon ça allait finir comme ça. Voilà, donc on attend la suite.
Sora.
J'allais dire, il est en garde à vue et c'est la démarche logique d'une procédure quand il y a des plaintes. Donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai pas d'avis. J'ai ni envie de le défendre, ni envie de l'accabler. j'ai envie de dire que s'il y a plainte et que quelque part la justice avance correctement et qu'on découvre qu'il est coupable, bon, ben voilà, la justice se tranchera. Ouais. On peut pas défendre ni accabler quelqu'un dont on ne connaît pas les éléments pour lesquels on n'a pas.
Mais il est en garde à vue parce qu'il s'appelle Patrick Bruel.
Bien sûr, oui, que c'est ça le problème.
Ah, merci.
Moi, je suis complètement d'accord avec
vous. Voilà.
S'il est coupable, il faut qu'il paye sa dette. Ok, ça c'est un vrai problème.
On peut pas dire
qu'il s'est pas fait tuer médiatiquement. Hein. Quand tu commences à être obligé d'annuler tes concerts parce qu'il y a des filles qui sont devant et qui font des manifestations
le
tous les jours.
Le meurtrier de Liana.
Le meurtrier de Liana, il est pas passé en garde à vue, quoi. Et Bruel, il est en garde à vue. Donc voilà.
Mais c'est un personnage médiatique. Vous voulez qu'il soit tué comment? Mais c'est bizarre, ça.
Non, mais c'est pas ça, Joël. Ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il n'est pas en garde à vue parce que c'est Patrick Bruel. J'espère que dans toutes les procédures, on fait comme ça.
C'est-à-dire
qu'on fera pareil. Sauf qu'on sait malheureusement avec l'affaire Liana que c'est pas le cas.
Voilà.
Que Liana.
On est d'accord.
Que quand la maman de Rosa porte plainte pour viol, il n'y a pas de garde à vue pour Barrella. En revanche, quand c'est effectivement médiatique, que les plaintes à la fois sont médiatiques, médiatisées par Mediapart, puisque Mediapart maintenant c'est.
Et qu'elles arrivent toutes à point nommé.
C'est les nouveaux commissariats de police.
Moi, je propose que tous les parents. Et tous les parents, mais bien
tu voulais. Mais c'est pas parce que l'agresseur de Liana, malheureusement, n'a pas été entendu que tout d'un coup on va pleurer sur le fait que Patrick Bruel
n'a pas entendu. Je ne pleure pas. Je dis, ça serait dégueulasse pour toutes les victimes anonymes. C'est-à-dire que il y aurait la justice en fait tout d'un coup serait rapide et exigeante lorsqu'il s'agit d'une star et que les plaignantes sont connues. En revanche, quand les plaignantes ne sont pas connues et que la personne mise en cause, personne ne connaît, tout d'un coup il se passe rien. Voilà. Ça s'appelle la justice à deux vitesses.
Oui,
j'espère que c'est pas ça. Si c'est ça, c'est dégueulasse.
La priorité sur le bureau d'un procureur ou d'un juge d'instruction, elle se gère avec la médiatisation.
Oui, c'est dégueulasse de deux poids deux mesures.
Voilà.
Mais d'accord.
Et je comprends la colère des
Français. Il faut bien qu'il y en ait certains qui passent devant.
Parce que les Français quand ils regardent ça, ils se disent ah bon d'accord quand c'est Patrick Bruel, ça peut aller vite.
Pas du tout. Il y a plein de Français qui sont pas en colère.
Les GG à Nantes, la police municipale en grève pour le retour du port d'armes.
On s'en fout pas du tout.
Zora.
Nantes, qui était une ville incroyable.
On s'en fout pas. Ok, Joël.
On s'en fout pas.
Donc Zora va.
Nantes, l'idéologie de Johanna Roland, où on croit que c'est le pays des bisounours, c'est le monde de oui-oui. Et que le port d'armes, la vidéosurveillance, etc., c'est trop répressif.
C'est pas chaud.
Quatre fusillades mortelles en un peu plus d'un mois dans la ville de Nantes.
Et Nantes a des statistiques de sécurité, je vous invite tous à aller voir, c'est hallucinant. Et donc, la police municipale fait grève pour le retour du port d'armes. Eh ben, je les comprends. Je les comprends, puisqu'à partir du moment où tu dissuades plus, ou que tu considères que finalement tout va se réguler tout seul, qu'il faut être complaisant, être gentil, que de toute façon le déni, il se passe rien, et ben voilà. Donc la logique d'une idéologie laxiste qui compte peut-être sur des phénomènes qui s'endigraient tout seuls comme par magie.
DJ.
Ben voilà.
Bah, je pense que plein de capitales régionales et grandes villes, avec ces idéologies de gauche, d'ultra-gauche et des écolos, c'est devenu des coupes-gorges. Et à un moment donné, les gens qui doivent assurer l'autorité dans les coupes-gorges, ils ont des pistolets à eau et des sifflets. Donc c'est normal qu'ils se mettent en grève pour redemander d'avoir de vrais moyens pour assurer la sécurité. Quoi.
Mais c'est marrant comment en France, on applique des mesures juste en surface. Parce que si tu veux faire comme l'Angleterre avec une police qui n'est pas armée, c'est toute une autre philosophie, c'est toute une façon de voir déjà l'autorité, c'est une autre façon du maintien de l'ordre. En fait, il faut tout repenser si tu veux faire ça. C'est pas juste enlève les armes.
Joël, par contre, ils ont le droit de rentrer dans ceux qui font des rodéos sauvages et des délits de fuite.
Il ne faut pas appliquer des mesures en surface comme ça, il faut mettre toute l'infrastructure en place. Là, c'est pas le cas. Moi, je suis désolée, des policiers à Nantes, faut voir ce que Nantes est devenu, notamment dans le centre-ville, des policiers à Nantes qui se baladent sans armes. Pour moi, je considère qu'en tant que maire, tu les mets en danger. Ouais, bah oui, je comprends qu'ils puissent vouloir des armes parce que là, tu te sens complètement démuni.
Ah bah c'est clair, en plus Nantes c'était plutôt une ville
où il faisait bon vivre.
Chaque année elle était en tête des des villes dans lesquelles il faisait bon vivre.
Ouais, et bah c'est fini, vous allez regarder le classement de Nantes, et c'est
ça,
terminé.
C'est depuis le démantèlement de la ZAD.
Mais moi je me souviens, moi qui ai bien connu Manuel Valls quand il était maire à Évry, c'est un des premiers à parler de la vidéosurveillance, de la sécurité dans les villes, etc. Et il y a eu des polémiques où aucune ville de gauche ne voulait de caméras de surveillance, de police municipale, etc.
Et c'est intéressant parce que tu vas voir avec l'avènement de l'intelligence artificielle quel va être le prochain débat qui va agiter les
reconnaissances faciales.
Exactement.
Ce qu'a demandé d'ailleurs Bruno Retailleau, les casseurs du après le match, tu peux identifier les reconnaissances faciales.
Comme tu sais, malheureusement,
ça, t'as pas besoin de punir tout le monde.
C'est exactement.
C'est ce qui se fait en Chine. C'est-à-dire, tu passes dans la rue, on te reconnaît, t'as pas le droit d'être dans le périmètre, t'as pas le droit d'être là, donc on t'interpelle.
Et ben voilà.
Il y a des municipalités qui commencent à dire, il faut pouvoir utiliser la reconnaissance faciale.
Oui, mais que ça peut contribuer à l'application de certaines décisions de justice. Tu vois, quand un mec a un périmètre interdit, peut-être que ça peut aider des caméras avec reconnaissance faciale.
Est-ce que quand il y a des mouvements de foule, de masse, de meute, comme après la finale du Paris Saint-Germain, où là les types ils sont casqués,
on a vu torse nu.
Oui, ils vont se cagouler plus, c'est tout. Mais
voilà, est-ce que ça permettra de les reconnaître quand même?
L'intelligence artificielle peut peut-être passer à travers.
Ça peut aider, mais ce sera vraiment le débat.
Comme ça, on attrapera les bons.
Voilà, et on punira pas les innocents.
Oui, mais il faudra pas s'en être. Tu vois, du coup.
Ouais, mais si on attrape les bons pour leur faire un rappel à la loi et 2 mois de sursis, ça sert à rien.
Ça peut être dans le débat pour l'élection présidentielle. Comment est-ce que le futur ministre de l'Intérieur pourra utiliser des outils comme ça. Bon, on verra. Mais pour ça, il faut mettre
Des outils, attention, parce qu'on a appris quand même qu'ils continuaient à envoyer des courriers postaux entre parquets et des fax. Donc,
moins en moins quand même.
Allons pas trop vite dans les nouveaux outils.
Ils ont peut-être encore mis le Minitel, on ne sait pas.
Demain, Antoine Dier, Sabelle Boyer, Fatima Ibounois seront avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules. En attendant. Estelle Denis est là pour Estelle Midi en direct jusqu'à 15h. Bonjour.
Salut Alain, salut Anaïs, salut à tous. Dans un instant, dans Estelle Midi, on va évidemment parler de la France bouleversée, en colère après l'affaire Liana. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants? Comment en avez-vous parlé à vos enfants? Écoutez, on en débattra dans un instant. Au 32-16, on parlera de ce couvre-feu pour les mineurs, donc pendant la Coupe du Monde à Clermont-Ferrand, bonne ou mauvaise idée. Partir à la retraite à 68 ans, pour ou contre? Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est trop tard, 68 ans, ou de toute façon, on sera obligé d'en passer par là? Ça fait quand même une injustice par rapport à ceux qui sont partis à 60 ans il y a encore quelques mois. Voilà, donc ça, nous en débattrons. À 13h30, on parlera des Français qui restreignent leur budget pour les vacances. Est-ce que vous seriez prêts à faire des sacrifices, en fait, pour partir en congé? Quels sont vos arbitrages, en fait, pour les vacances d'été? Ça, écoutez, on en parlera aussi à 14h. Et puis, il y aura bien sûr...
Moins cher et moins longtemps.
Mais quand même, les Français veulent absolument partir en vacances, quoi.
Ça fait penser à la chanson de Michel Jonas, c'est Vacances au bord de la mer.
Oui. Qu'est-ce qu'elle est déprimante, cette chanson.
Ça, c'est sûr.
On pourrait
ça
mettre ça.
On mangeait des glaces à l'eau, on regardait les bateaux et puis on chialait tous ensemble.
C'est beau. Ça met après la même ambiance que Léo Ferré, quoi. C'est affreux.
On va aller au bord de la mer avec ma soeur, ma mère,
ma famille, quoi.
Cela dit, c'est une jolie chanson.
Dans la chanson, il dit à un moment donné, on n'avait plus les moyens. Ah. Et donc, on mangeait simplement des glaces.
C'est pas la grande éclate, quoi. Je veux dire, on met pas ça en fin de soirée.
Patrick,
vous exagérez. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des très jolis endroits en France, pas très loin de Paris, où tu passes des super beaux moments.
Les bases nautiques.
La campagne, c'est très joli.
En Saône-et-Loire.
Tu vas dans l'Ardèche, dans les gorges du Verdon.
Les gorges du Verdon, il y a un monde dingue.
On a encore le droit de choisir où on va.
Mais la France est belle.
Le tu préfères,
faut pas le dire.
Dormir la fenêtre ouverte ou dormir la fenêtre fermée?
Ouverte.
Ça dépend des moustiques.
Ça dépend à quel étage t'es.
Ouais.
Fermé.
Pourquoi? Parce que si t'es sur rue au premier étage.
À Paris, tu peux pas ouvert.
Quelle saison?
Ouais, mais enfin, on est en été, on arrive en été là, Alain, évidemment.
Été, bah, Alain, ça veut rien dire la saison ouverte.
Ça dépend des politiques.
Ça veut rien dire la saison. Volet fermé, fenêtre ouverte.
À la campagne, fenêtre ouverte.
À la campagne, fenêtre ouverte.
Ah non, t'as des bêtes.
Avec les
personnes. Mais alors, moi, fenêtre ouverte.
Ben écoute, moi j'ai.
Il y a des bêtes.
Moi je suis en étage élevé, mais j'ai hyper peur des rats. Je me dis, ça se trouve, ça peut monter et ça me terrorise.
Les rats volants, 32-16 pour discuter avec Estelle Zinzin.
Ça peut monter sur des surfaces.
Bonne émission.